France Info. Et en cette veille de réveillon de la Saint-Sylvestre, eh bien, nous allons parler de celui qui sera sur beaucoup de tables demain soir. Nous allons parler de champagne. Avec vous, Jean-Marc Gallo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes effectivement le président directeur général de Veuve Clicquot. Veuve Clicquot qui est le deuxième champagne le plus vendu au monde derrière Moët et Chandon. Autour de 20 millions de bouteilles sortent chaque année de vos caves. Sachant que la production annuelle de la totalité des champagnes, c'est 310 millions de bouteilles. Signalons aussi que votre marque est propriété du groupe LVMH. Alors, Veuve Clicquot, le nom peut paraître étonnant. Mais elle a vraiment existé, cette veuve. Qui est-elle?
Alors, elle a plus qu'existé. Elle a été emblématique, puisque c'est une jeune femme qui, au début du 19e siècle, en 1805, à l'âge de 27 ans, a perdu son mari, qui dirigeait la maison Clicquot-Poncerdin, et qui donc s'est retrouvée à la tête de cette maison. Et à l'époque, il n'était pas autorisé pour une femme de diriger une entreprise, à l'exception des entreprises familiales, et si vous étiez veuve, vous pouviez diriger l'entreprise.
Alors elle va devenir d'ailleurs l'une des premières femmes d'affaires modernes.
Alors absolument, on n'a pas d'exacte référence, mais effectivement elle se retrouve peut-être une des toutes premières femmes entrepreneurs en France. Et au lieu de diriger l'entreprise, j'allais dire de manière un petit peu raisonnable, en essayant de gérer les affaires courantes, la voilà qui innove de tous les points de vue. En quelques années, elle crée les millésimes en 1810, et surtout 1818, invention et création du rosé d'assemblage dont on va fêter les 200 ans l'année prochaine.
Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'au début du 19e siècle, diriger une maison de champagne, c'est pas simple parce que la conjoncture est exécrable.
Alors la conjoncture est extrêmement difficile. Napoléon et à travers toute l'Europe a mené des combats avec toutes les grandes nations et elle dirige l'entreprise avec la volonté de la développer à l'international. Elle va même jusqu'à envoyer sous embargo un bateau vers la Russie qui est en guerre à ce moment-là avec la France. Et donc un bateau secret part vers Saint-Pétersbourg et nos amis les Russes célébreront d'ailleurs leur victoire contre la France avec du Veuve Clicquot.
Alors vous dites vos amis les Russes et on comprend pourquoi, parce que la Russie va devenir l'un des premiers marchés à l'export de champagne.
Alors un marché absolument fondamental en champagne, des très grands connaisseurs au même titre que les Anglais et avec cette volonté d'avoir de plus en plus de bouteilles de la maison Veuve Clicquot avec donc des expéditions régulières dont un bateau va couler et on retrouvera, il y a maintenant 7 ans de cela, une expédition qui était partie au début du 19e siècle au fin fond de la mer au large de la Finlande. Donc on a retrouvé une soixantaine de bouteilles de l'époque qu'on a identifiées grâce à l'encre sur le bouchon. Et depuis d'ailleurs, dans cette...
Mais vous les avez goûtées, c'est buvable encore?
Alors on les a goûtées, très difficile, très très difficile, l'effervescence n'est presque plus là, un tout petit brin d'effervescence, et puis un goût de l'époque qui était extrêmement sucré, très dosé. Les champagnes de l'époque, sans vouloir être trop technique, étaient dosés à plus de 200 grammes, ce qui nous semblerait aujourd'hui presque imbuvable.
Alors tout au long du 19e siècle, Veuve Clicquot va donc exporter son champagne, notamment vers la Russie, on en parlait. On imagine que la guerre de 14 et la révolution de 17 sont une catastrophe pour vous.
Très très difficile parce qu'encore une fois, la très grande majorité des affaires de Madame Clicquot étaient faites vers l'extérieur et vers l'étranger. Donc cette guerre de 14-18 a été effectivement très difficile, mais la maison a rebondi en développant encore plus son premier marché, à savoir les États-Unis. Où aujourd'hui, vous parlez de Veuve Clicquot, de Widow Clicquot, comme on le dit aux États-Unis, et nous avons une présence extrêmement importante aujourd'hui aux États-Unis.
Jean-Marc Gallo, PDG de Veuve Clicquot, en 1986, date importante, vous êtes racheté par LVMH, qui possède Moët et Chandon, Ruinart, Krug, Mercier, Dom Pérignon. Est-ce que vous n'avez pas perdu votre âme?
Pas du tout. Pas du tout pour deux raisons. La première, c'est que chez LVMH, chacune des maisons est vraiment poussée à développer son identité et à avoir un côté assez compétitif avec ses cousins. Et puis aussi parce que c'est vrai que grâce au groupe LVMH, on a les moyens de pouvoir nous développer à l'international avec des zones géographiques qui était l'Asie il y a quelques années. La Chine, par exemple, reste un territoire à conquérir pour le champagne, puisque la majorité des Chinois ne connaissent pas encore le goût effervescent pour les alcools. Et puis, un continent qui est aussi prometteur pour le futur, c'est l'Afrique, dont on parle très peu, mais qui commence à découvrir le champagne et qui semble être très prometteur pour nos affaires.
Jean-Marc Gallo, on est donc à la toute fin de cette année 2017. Comment s'est portée la consommation de champagne cette année ?
Alors une consommation qui globalement est en très légère hausse dans le monde, la France étant relativement stable. Il faut savoir quand même que sur les 310 millions de bouteilles qui sont produites chaque année en champagne, la moitié est bue en France. Et là, nous sommes donc le 30 décembre, donc veille de réveillon. Le seul mois de décembre représente plus de 20% de la consommation annuelle, donc un enjeu très important pour l'ensemble des maisons. Et bien sûr, la volonté de pouvoir offrir une expérience magnifique pour le réveillon.
Alors justement, pour ce réveillon, comment faut-il boire le champagne ? Et d'abord, à quelle température ?
Alors, quand c'est un brut sans année, il ne faut pas hésiter à le boire frappé, c'est-à-dire à 6 ou 7 degrés. Un champagne doit être très frais. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ceux qui mettent à la dernière minute une bouteille dans le congélateur feraient mieux de plonger dans un seau avec de la glace et de l'eau. Ça prendra exactement autant de temps, 20 minutes dans les deux cas, pour avoir un champagne qui est à la bonne température de 6 ou 7 degrés. Très mauvaise idée le congélateur. Ça casse le champagne, ça n'est pas du tout recommandé. Et par contre, si vous avez un champagne millésimé qui peut avoir quelques années, là nous venons de sortir par exemple 2008, donc c'est un champagne qui a presque 10 ans, il faut le boire plutôt à 11 ou 12 degrés pour que ces années, le temps qui a passé, permettent au champagne d'exprimer mieux sa personnalité et ses différentes saveurs.
Et enfin, on le boit en apéritif ou en dessert ?
Alors, on le boit en apéritif, on peut le boire à travers tout le repas, en particulier avec le fromage. Boire du champagne avec le fromage est une parfaite association. Et puis, on continue jusqu'au dessert. Et puis après, juste au moment du réveillon.
Et avec modération, évidemment. Merci Jean-Marc Gallo, président directeur général de Veuve Clicquot. Et permettez-moi, avec quelques heures d'avance, de vous souhaiter une excellente année 2018.